Article d'élite 8e.
Alors, nous avons vu la dernière fois comment le roi Akab était mort, et nous avons abordé la suite de sa lignée avec le règne d'Ahazia sur Israël, son fils. Je rappelle rapidement, dernier verset du livre des rois. La 17e année du règne de Josaphat, roi de Juda, Ahazia, fils d'Akab, devient roi sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et imita l'exemple de son père et de sa mère et de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. On avait vu que Élie avait réussi à se débarrasser du culte Baal dans le pays et qu'il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Et que pendant un temps, il a même réussi à ramener Akab vers l'Éternel et à mettre en veilleuse les pratiques de sa femme Jézabel. Mais progressivement, petit à petit, le roi, le peuple, se détourne de nouveau du Seigneur et retourne vers les dieux étrangers. Donc on va voir maintenant le cheminement de tout ça. On s'est rendu compte que ça avait déjà commencé avec des faux prophètes qui se disaient inspirés par le Seigneur et qui en fait ne l'étaient pas. Donc on commence avec ça. Et une fois que ceux-là se sont installés et puis que le mensonge se répand dans le pays, que l'Éternel n'est plus écouté, la suite logique, c'est de se détourner complètement du Seigneur et d'aller vers les dieux étrangers. On va voir maintenant avec le fils d'Akab comment les choses se passent. Alors maintenant, on bascule dans le deuxième livre des rois. C'est en 2 Rois, premier chapitre, verset 1. Après la mort d'Akab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Le roi, Ahazia, tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il envoya des messagers consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir s'il se remettrait de cet accident. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbé, « Mets-toi en route. Va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur. N'y a-t-il pas de dieu en Israël ?» pour que vous alliez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel à votre roi. Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, et tu vas mourir. Élie y alla. Alors, les messagers retournèrent auprès d'Ahazia qui leur demanda, pourquoi revenez-vous déjà? Il lui répondit, un homme est venu à notre rencontre et nous a ordonné, allez, retournez auprès du roi, qui vous a envoyé, dites-lui, voici ce que déclare l'Éternel. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu nous envoies consulter Baal-Zébub, le Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, tu vas mourir. Ahazia leur demanda, quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message? Il lui répondit, c'était un homme habillé d'un vêtement de poil, de chameau, noué d'une ceinture autour des reins. Alors Ahazia dit, c'est Élie de Tishbé. Donc là, on redécouvre Élie, qui pendant un temps s'était effacé du devant de la scène, ce qu'on avait découvert de nouveaux messagers du Seigneur, de nouveaux prophètes, qui avaient réapparu en Israël et qui intervenaient au milieu du peuple, qui intervenaient devant le roi. Et là, on se rend compte que, une fois de plus, Élie doit se jeter dans l'arène parce que la situation se dégrade et qu'il va falloir reprendre les choses en main. Donc là, nous avons donc le roi d'Israël qui a vraiment pris une orientation, une direction et un chemin qui est clairement le chemin qui se détourne du Seigneur. La première des choses qu'on voit, c'est que les conséquences, l'attitude des rois d'Israël agit de telle sorte que les sujets qui leur étaient soumis se révoltent. Donc, l'Éternel suscite des ennemis à Israël. On sait que lorsqu'un roi est proche du Seigneur, comme le roi Salomon par exemple, eh bien la paix s'instaure dans le pays, et puis le Seigneur garantit que le trône sera sécurisé, que le trône ne connaîtra pas de bouleversement majeur, et que les ennemis d'Israël, qui sont tout autour, eh bien, ces pays-là, ces ennemis-là, eh bien, se tiendront tranquilles et n'attaqueront pas le pays. Et si à l'extérieur, il commence à se passer des troubles, si les sujets se révoltent, si des pays essayent d'envahir Israël, la raison première qu'il faut rechercher, ben c'est l'attitude du peuple et les dieux qu'ils honorent, les lois qu'ils suivent. Et en règle générale, très rapidement, on se rend compte que les lois qu'ils suivent ne sont pas les lois de l'Éternel, que les dieux qu'ils adorent, ce n'est pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui les a fait sortir d'Égypte, mais que ce sont des dieux étrangers, mais qui se détournent du Seigneur. Et à partir de là, la malédiction s'abat sur le pays. Et il y a des étrangers qui deviennent des ennemis d'Israël. Et ça, c'est la première des choses qu'on voit quand on aborde ce chapitre. Ben, c'est que les Moabites, qui étaient des sujets, qui étaient soumis à Israël, ben, se révoltent. Déjà là. Après, on apprend que le roi Ahazia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Déjà là. Il faut savoir que la chambre haute, c'était un lieu particulier. C'était un endroit où on faisait sa prière, où on se recueillait. Et si une chose comme ça lui arrive, on peut aisément deviner que le Dieu qu'il adorait, ce n'était pas l'Éternel. Ce n'était pas le Dieu d'Israël, mais c'était un Dieu étranger. Et qu'en réaction à son attitude, à sa révolte vis-à-vis du Dieu d'Israël, le Seigneur a favorisé les circonstances pour qu'il se casse la figure depuis sa chambre haute, où il avait installé son petit culte personnel là en haut pour adorer son petit dieu personnel, parce qu'il n'osait pas encore le faire ouvertement dans les rues, comme son grand-père l'avait fait, comme Omri l'avait fait, où il avait élevé carrément un temple à Samarie, hein, au dieu Baal. Lui, il faisait ça encore discrètement, parce qu'il y avait Élie, bien sûr, qui était là, mais encore beaucoup d'autres prophètes qui se seraient dressés contre le roi, et il avait peur que le peuple se soulève. Maintenant, il faisait ça encore discrètement. Il ne faut pas douter un instant que sa mère devait être derrière ce coup-là, que sa mère devait avoir une grande influence sur le roi, et qu'elle conduisait donc son fils à adorer les dieux que cette femme servait, et que le fils écoutait le conseil de sa mère et suivait ses voies. Alors on peut avoir confirmation des soupçons qu'on peut avoir par rapport à ce qui est arrivé à Ahazia dans la suite des événements. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que de demander le secours du Seigneur, d'aller chercher un prophète pour demander la guérison, il envoie des messagers consulter un dieu étranger, Baal-Zébouk, le dieu d'Écron. Écron, c'était une des cinq plus grandes villes phéniciennes, qui était juste sur la frontière entre Israël et la Phénicie. Et donc, dans cette ville, dans cette grande ville, on adorait le dieu Baal, il y avait un temple, et il avait envoyé ses messagers pour qu'on fasse des offrandes et qu'on consulte les oracles, qu'on consulte les prophètes de Baal pour savoir si il serait guéri ou pas. Naturellement, ce faisant, nous avons déjà un premier acte de rébellion grave vis-à-vis du Seigneur, parce que depuis que Élie avait égorgé les prophètes de Baal, le culte de Baal avait considérablement régressé en Israël. Et là, si le roi, ouvertement et devant tout le monde, envoie ses messagers vers la ville d'Écron pour qu'on aille consulter les prophètes de Baal, c'était quelque chose d'important. Parce que si le roi se détourne du Seigneur pour se tourner vers le dieu Baal, les conséquences seraient gigantesques dans le pays. Parce qu'on sait que en règle générale, le peuple suit la tête, le peuple suit ses chefs, et si le chef, ben, il a deux balles, en règle générale, ben, le peuple suit derrière, à part quelques exceptions. Hein, on se rappelle que quand Élie était sur le mont Horeb, ben, le Seigneur lui avait dit, il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux, t'es pas seul. Mais la très grosse majorité, elle, se soumet, il fait comme le roi. Et donc, avec l'attitude nouvelle, la direction nouvelle de ce jeune roi en Israël, eh ben, on peut dire, une des toutes premières choses qu'il fait, eh ben, c'est de se tourner, c'est de se détourner plutôt du Seigneur, pour se tourner vers Baal. Et là, eh ben, le Seigneur, il envoie son fidèle serviteur, le plus efficace, celui sur lequel il sait qu'il peut compter, quand vraiment la situation devient catastrophique, parce que celui-là, il ira jusqu'au bout. Et donc, le Seigneur envoie Élie, et lui dit, maintenant c'est fini, j'ai beaucoup supporté de choses dans ce pays, tu vas aller vers le roi, et tu vas lui déclarer ça, est-ce qu'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus personne pour consulter en Israël, pour que tu ailles vers les dieux étrangers, bien, parce que tu as fait ça, bien, sur le lit sur lequel tu t'es couché, bien, ça sera ton lit de mort. Et donc, les serviteurs sont arrêtés en cours de route, et quand ils reviennent vers le roi, qu'ils lui racontent ce qui s'est passé, ben, immédiatement, ils se rendent compte qu'ils se retrouvent devant un adversaire de taille, avec Élie, parce que Élie, sa renommée était faite, et tout le monde en avait peur, à commencer par Akab. Akab respectait Élie. Akab craignait, parce qu'il n'y a jamais touché. C'est sa femme qui voulait l'assassiner, mais pas Akab. Akab ne cherchait pas à tuer Élie. Mais là, les choses vont être totalement différentes, et c'est là qu'on va retrouver l'influence de Jézabel, la mère d'Ahazia, parce que Jézabel voulait faire, de tout temps, c'est de se débarrasser d'Élie, de le tuer, ou l'éliminer. Après la mort des prophètes, bah, Élie est parti parce qu'il était convaincu que si les sbires de Jézabel lui tombaient dessus, bah, que ça ne ferait pas un pli et puis qu'il mourrait. Et donc, on va retrouver là la même attitude, c'est-à-dire, aisément, là, encore une fois, imaginez ce qui s'est passé. Jézabel va chez son fils et lui dit, écoute, bah, maintenant, il faut en finir une bonne fois pour toutes. On a un ennemi en Israël qui est terrible. Et tant que ce Élie sera dans le secteur, eh ben, tu ne pourras jamais régner, tu n'auras jamais d'autorité. Il faut que maintenant tu rétablisses ton autorité, tu prouves que tu es le roi, et que tu établisses une bonne face pour toute ta domination sur ce pays, parce que sinon, tu ne seras jamais un vrai roi. Ben, le meilleur moyen d'y arriver, de le prouver, eh ben, c'est de mettre la main sur Élie et de t'en débarrasser. Comme ça, les gens ils se rendront compte, ah ben, ça, c'est un roi puissant, c'est un roi fort, et plus fort qu'Akab, puisque lui, il a réussi à soumettre Élie. Et donc, on va voir la suite. Ahazia envoie arrêter Élie. Aussitôt, il envoya vers Élie un officier avec une cinquantaine d'hommes pour qu'il le lui ramène. L'officier monta vers Élie, qui se tenait sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. » Élie lui répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudroie, toi et ta cinquantaine. Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Ahazia envoya un autre officier accompagné d'une cinquantaine. Celui-ci dit à Élie, homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi de descendre. Élie lui répliqua, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudroie, toi et tes hommes. Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Ahazia envoya un troisième officier avec une cinquantaine. Cet officier-ci, après être monté, fléchit les genoux devant Élie et le supplia. Homme de Dieu, je te prie, aie égard à ma vie et à celle de cette cinquantaine d'hommes. Le feu est tombé du ciel et a foudroyé les deux premiers chefs et leur cinquantaine. Mais maintenant, aie égard à ma vie. L'ange de l'Éternel dit alors à Élie, descends avec lui, ne crains rien de sa part. Alors, Élie se mit en route pour descendre avec l'officier chez le roi. Lorsqu'il fut arrivé, il lui dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébou, le dieu des chrones, comme s'il n'y avait pas de dieu en Israël, que l'on puisse consulter, eh bien, tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, et tu vas mourir. » Ahazia mourut effectivement comme l'Éternel l'avait annoncé par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère, Yoram, lui succéda sur le trône la seconde année de Yoram, fils de Josaphat, roi de Juda. Les autres faits et gestes d'Ahazia sont cités dans le livre des Annales du roi d'Israël. Bien. On va étudier un peu tout ça. Ça vous inspire quoi, ce qui se passe dans la suite des événements? Pourquoi les choses se passent-elles ainsi? On aurait très bien pu imaginer que Élie, une fois de plus, fuit, quitte le pays, en se disant, bah, ça y est, c'est reparti pour un tour. Ils vont essayer de mettre la main sur moi et ils vont chercher à me tuer. Pour cette fois-ci, il monte en haut d'une montagne et il attend pied ferme l'adversité. Pourquoi les choses se passent-elles ainsi, à votre avis?
L'Éternel est devenu Dieu en Israël, comme il a combattu les anciens dieux, enfin les dieux faux. Il est venu s'établir. Maintenant, c'est Dieu qui combat. Ce n'est plus Élie.
Puis c'est aussi un rappel de quand il a combattu les prophètes de Baal, il était sur la montagne, et chacun devait allumer son holocauste. Et c'est là que le feu est descendu du ciel, déjà pour eux.
Mmh. Ah, oui, c'est bien. Mais pourquoi de cette manière-là particulière? C'est très juste ce que vous avez dit, mais il manque un petit bout là. L'Éternel en fait une affaire personnelle. Déjà, Élie monte en haut de la montagne. Il aurait très bien pu aller dans une ville quelconque, en la plaine, au bord d'une rivière. Non, il monte en haut d'une montagne. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y avait les hauts lieux, les lieux de culte. Hein. Quand le peuple il montait sur la montagne, c'était pour adorer les dieux. Donc, il monte au sommet d'une montagne. Pourquoi? Parce qu'il va en faire un champ de bataille entre les dieux. Pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, il faut revenir au texte hébreu, comme d'habitude. Parce que quand on lit en français ce genre de traduction, le problème de compréhension vient de la vulgarisation du texte, qui, pour des noms différents, sont toujours ramenés à la même expression. Par exemple, ici, on parle de Dieu. Une fois avec une majuscule, une minuscule. Mais les noms de Dieu dans la Bible sont différents. Ils changent. C'est Yahvé, c'est l'Éternel, c'est Elohim, elle. Et on sait que toutes ces expressions ont une signification bien précise. Donc maintenant, on va revenir au sens des mots afin que le texte prenne un relief différent. Au départ, le roi Ahazia envoie des serviteurs pour consulter Baal. Et Élie s'interpose, et quand il se retrouve face au serviteur, il leur pose cette question. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Quand on lit ça en français, on se dit, ouais, c'est juste, il n'y a pas de Dieu en Israël. En fait, l'expression, c'est, il n'y a pas d'Élohim en Israël. Et rappelez-vous qu'Élohim, c'est un nom générique qui, dans le langage sémitique, couvre l'ensemble de la divinité. C'est comme nous, Dieu. Le mot Dieu, ça peut être aussi bien une idole comme ça peut être le Seigneur dans le ciel. Et donc Elohim, quand les Cananéens, les Syriens, quand les Israéliens, etc., parlaient de Dieu en général, c'était pas un nom propre, c'était un nom commun qui désignait la divinité. Et donc là, Élie dit, mais il n'y a pas d'Élohim en Israël. Pourquoi? Parce qu'il savait pertinemment que derrière ce nom, il pouvait y avoir deux réponses. Est-ce que c'est le Dieu en minuscule Baal que vous allez consulter? Ou est-ce que c'est Dieu avec une majuscule, l'Éternel d'Israël, que vous allez consulter? Je dis, quel Dieu vous allez rechercher maintenant? Quel Dieu que vous recherchez? Ça, c'est la question. Et donc là, il monte sur la montagne. Pourquoi? Parce que c'est le haut lieu. C'est là que les gens vont adorer. C'est là que les gens vont faire leur sacrifice, c'est là qu'ils vont faire leur prière. Et il y a donc un conflit maintenant qui va éclater entre Elohim et Elohim. Elohim, le Dieu des Hébreux, et les Elohim, les dieux étrangers d'Israël. Et si on lit ça, avec la version Chouraki, qui se rapproche beaucoup de l'hébreu, dans le sens où, ben justement, lui ne traduit pas les noms de Dieu, il les conserve dans le contexte original en hébreu, ben, le texte change. Et puis, on va retrouver des intonations, on va retrouver des sens qui sont différents. Donc on va reprendre le texte, mais cette fois-ci avec un sens de mot qui est nouveau. Alors nous retrouvons l'intervention d'Élie. À partir du verset 52, on peut lire ça. Il fait le mal aux yeux de Yahvé Adonai. Il va sur la route de son père, sur la route de sa mère, et sur la route de Jéroboam qui fit fauter Israël. Donc là, on revient sur Ahazia, et puis on a donc ce résumé de sa vie, où on dit bah, qu'il se détourne de Yahvé Adonai, c'est-à-dire du Seigneur l'Éternel. Il sert Baal, il se prosterne devant lui, il irrite Yahvé Adonai, l'Élohim d'Israël, selon tout ce que fit son père. Donc là, quand on lit ça en hébreu, on se rend compte que la phrase prend un relief totalement différent. Il l'irrite, Yahvé Adonai, l'Élohim d'Israël. On se rappelle que le tétragramme a été révélé à Moïse, c'est vraiment le nom de Dieu. Et là, on dit, c'est le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Israël. Donc là, on a le nom générique, l'Élohim d'Israël. Moab fait carence contre Israël après la mort d'Akab. Ahazia tombe par le treillis de son étage à Samarie. Il est malade. Il envoie des messagers et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébub, l'Élohim des Chrones. Survivrai-je à cette maladie ?» Un messager de Yahvé Adonai parle à Élie le Tishbite. « Lève-toi, monte à l'abord des messagers du roi de Samarie. Parle-leur. N'est-il pas d'Élohim en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, l'Élohim d'Écron ?» Le sens de la phrase prend là déjà une toute autre tournure. « N'y a-t-il pas d'Élohim en Israël que vous alliez consulter Baal-Zébub, l'Élohim d'Écron ?» Ainsi dit Yahvé Adonai, « Lui où tu es monté, tu n'en descendras pas. Oui, tu mourras. » Élie, il va. Les messagers retournent vers lui. Il leur dit, « Quoi ? Vous êtes retournés ?» Ils lui disent, « Un homme est monté à notre abord. » Il nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé. Parlez-lui. » Ainsi dit Yahvé Adonai, « N'est-il pas d'Élohim en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, l'Élohim d'Écron ? Aussi le lit où tu es monté, tu n'en descendras pas. Oui, tu mourras, il leur parle. Quel est le jugement de l'homme qui est monté à votre abord ?» Il vous a dit ces paroles. Il lui dit, un homme vêtu de poils, ceint de cuir, ceint sur ses hanches. Il dit, Élie, le Tishbite, lui, il lui envoie un chef de 50 et ses 50. Il monte vers lui et voici, il habite à la tête de la montagne. Il lui parle, homme d'Élohim, le roi a parlé, descend, Eliaou. Élie répond et parle au chef des 50. Si je suis homme d'Élohim, qu'un feu du ciel descende, et te mange toi et tes 50. Le feu du ciel descend et le mange avec ses 50. Il retourne, il envoie vers lui un autre chef de 50 et ses 50. Il répond et lui parle. Homme d'Élohim, le roi dit un saint, a dit ainsi. Vite, descends. Il y répond et leur parle. Si je suis homme d'Élohim, qu'un feu des ciels descende et te mange toi et tes 50. Un feu du ciel descend et le mange avec ses 50. Il retourne, il envoie un chef de 50, le troisième, avec ses 50. Le chef des 50, le troisième, monte et vient. Il poit sur ses genoux contre Élie et lui demande grâce. Homme d'Élohim, que mon être et l'être de tes serviteurs, ses 50, soient donc chers à tes yeux. Voici un feu est descendu des cieux. Il a mangé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50. Maintenant, que mon être soit cher à tes yeux. Un messager de Yahvé, Adonai, parle à Élie. Descends avec lui. Tu ne frémiras pas face à lui. Il se lève et descend avec lui vers le roi. Il lui parle. Ainsi dit Yahvé Adonai, puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, l'Élohim des chrones, n'est-il pas d'Élohim en Israël pour consulter sa parole? Aussi, le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas. Oui, tu mourras, tu mourras. Il meurt selon la parole de Yahvé Adonai, dont Élie avait parlé. Non, donc là, une nouvelle guerre des dieux qui démarre. Et ça, on le retrouve dans le texte, dans les différences qu'il y a, lorsqu'on parle du Dieu d'Israël, qui est présenté comme étant Yahvé Adonai, et le Dieu étranger, qui est présenté sous le nom d'Élohim. Et donc, ce simple Dieu, qui est Baal, je vous rappelle quand même que Baal, c'est le Dieu de l'orage, c'est le Dieu de la pluie, l'Éternel s'affirme de nouveau avec puissance, une fois de plus, face à ce dieu de l'orage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Élie de monter sur la montagne, là où est censé y avoir la présence des dieux, et donc quand le roi envoie ses 50 vers Élie pour aller le chercher, la réponse de l'Éternel se superpose à ce qui est censé être la puissance du dieu Baal. Et je vous rappelle que le dieu Baal, c'était le dieu de l'orage, qu'on le représentait avec des symboles qui étaient notamment l'éclair. Quand ces hommes arrivent et qu'ils lui disent « Toi, l'homme d'Élohim, comme si c'était un simple dieu, une simple idole que Élie représentait, le Seigneur y répond en montrant toute sa puissance et toute sa fureur, fait la démonstration que s'il y a vraiment un dieu qui est un vrai dieu et qui répond puissamment, c'est bien lui. Et il le fait de la même manière qu'aurait pu le faire le dieu Baal. C'est-à-dire en faisant descendre le feu du ciel, en faisant descendre la foudre sur ces hommes-là. Donc là, le Seigneur imite, s'identifie, si on veut, à la puissance du dieu Baal. Il dit, voyez, vous adorez des idoles qui de toute façon ne réagissent jamais, ne font jamais rien. Vous dites que c'est le dieu de l'orage, vous dites que c'est le dieu de la pluie, que c'est le dieu du tonnerre. Il ne se passe jamais rien, c'est que des idoles. Mais moi, je suis le dieu vivant. Et moi, je vais vous montrer que c'est moi qui maîtrise les événements. Et puis, ces hommes arrivent et ils sont foudroyés. Ça arrive une fois, ça arrive deux fois. Vraiment, le Seigneur montre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu en Israël, c'est lui. Et que ce fameux Dieu de l'orage, ce fameux Baal, ce fameux Elohim, là, qu'on adore à droite, à gauche, qui est représenté par un bétil, qui est représenté par des pierres dressées, ah ben, ce Dieu, ah ben, c'est qu'une image. Derrière ça, il n'y a rien. Par contre, il y a un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui vraiment contrôle les éléments, mais il n'y en a qu'un seul. Et bien, ce Dieu-là, c'est l'Éternel. C'est Yahvé Adonai. Et donc, sur cette montagne, nous avons donc un rétablissement de l'autorité divine par rapport aux idoles d'Israël. Le diable essaye, une fois de plus, de réintroduire dans le pays l'autorité du dieu Baal. Et bien, immédiatement, le Seigneur envoie Élie et montre tout de suite qu'il n'y a qu'un dieu qui maîtrise l'orage, qu'il n'y a qu'un dieu qui maîtrise le feu du ciel, et que ce dieu, c'est Yahvé Adonai. Ça, c'est le premier enseignement. Par rapport à ça, la réponse, la manière dont le Seigneur y répond sur cette montagne, il ne s'adresse pas uniquement aux hommes, mais il s'adresse à toutes les divinités des dieux étrangers qui sont autour, et on dit, en Israël, vous ne vous imposerez pas. En Israël, c'est moi le Seigneur, c'est moi le Dieu, c'est moi Elohim. Il n'y a pas d'autre Elohim en Israël que Yahvé Adonai. Mais ça, ces subtilités, malheureusement, s'effacent dans les traductions françaises. Mais là, on se rend compte, quand on lit ça, quand on revient à la racine hébraïque, le nom qui est utilisé pour les dieux nous fait immédiatement comprendre qu'il y a là un conflit qui dépasse uniquement les dimensions terrestres. Et que derrière ça, il y a une dimension spirituelle où le Seigneur écrase, efface littéralement l'autorité des dieux étrangers. Il se superpose à ça. Ah, le grand dieu Baal, extrêmement puissant, et puis qui pense dominer et régner sur Israël. Ben non, moi, je vais dominer ce monde. Je vais l'humilier. Donc, le Seigneur a mis une barrière en Israël, le Seigneur a mis son veto. Il a dit non, moi, je n'accepte pas que du Baal revienne dans ce pays, et je maintiendrai mon autorité par mon serviteur Élie. Je ferai en sorte que tant qu'il y aura des prophètes qui sont inspirés, tant qu'il y aura des hommes d'autorité dans le pays, eh bien, on réinstaurera pas tellement facilement le culte de Baal. Et Élie, c'était vraiment un homme d'autorité, parce que quand le troisième chef de ses 50 est monté vers Élie, eh bien, il s'est mis à genoux devant lui. Parce que vraiment, il a fait acte de soumission, et il a reconnu l'autorité du prophète. Là, en l'occurrence, Élie, c'était plus un simple serviteur de Dieu, un simple prophète, mais c'est à ce moment-là vraiment devenu l'autorité dans le pays. On se rappelle que cette chose-là s'était déjà passée du temps d'Akab, et qu'il avait repris l'autorité sur le roi, qu'il avait dominé sur lui, lui avait imposé ses conditions, l'avait remis à sa place, et qu'il lui avait rendu cette autorité très rapidement en courant devant son char. Parce qu'il n'était pas convenable qu'Élie soit le chef d'Israël. Il était le responsable spirituel, mais l'Éternel voulait que ce soit le roi qui reste le chef du peuple, que ce soit le roi qui soit l'autorité terrestre, et que ce ne soit pas Élie. Et là, nous avons donc une reprise en main, où Élie est de nouveau, une fois de plus, obligé de faire preuve d'autorité et de dominer sur le roi, ce qui en fait automatiquement le nouveau chef dans ce pays-là. C'est lui qui fait et qui défait les rois. Mais là encore, il n'est pas convenable que Élie reste l'autorité suprême dans ce pays, parce que ce n'est pas ainsi que le Seigneur voit les choses. Il ne veut pas d'un nouveau Moïse. Il y a des règles qui ont été instituées, des rois qui se sont installés dans le pays. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais le peuple l'a voulu ainsi. Le Seigneur respectera donc la volonté du peuple, puisque c'est ce qu'ils veulent, mais il ne veut pas que ce soit un prophète qui règne dans le pays. Il ne veut pas que ce soit que le prophète agisse en tant que chef temporel, en tant qu'autorité physique. Ce n'est pas son rôle. Le rôle du prophète, c'est de parler au nom du Seigneur. C'est d'amener les hommes à se tourner vers lui. Mais ce n'est pas à être l'administrateur du pays, ce n'est pas à être un fonctionnaire qui gère les affaires courantes du pays. Il n'est pas appelé à ça. Ce n'est pas son rôle. Et donc, face à ça, le Seigneur va donc reprendre Élie à lui. Et encore une fois, dans un faux geste symbolique. Dans chapitre 2, on peut lire ça. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Bethel. » Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au devant d'Élisée et lui demandaient « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il leur répondit « Oui, je le sais moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit de nouveau « Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. » Il répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au-devant d'Élisée et lui demandèrent « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il répondit « Oui, je le sais, moi aussi. Ne parlez pas de ça. » Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Mais Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je te quitterai pas. » Poursuivirent donc tous deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance, lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie enleva son manteau, le roula et frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ? Demande-le-moi, avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Pendant qu'il continue à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux, il les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, « mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages !» Puis, il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis, il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Ainsi, il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il traversa à pied sec. Disciples des prophètes de Jéricho, qui le virent d'en face, s'exclamèrent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui proposèrent, « Vois-tu, nous avons avec nous tes serviteurs 50 hommes robustes. Permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être l'esprit de l'Éternel n'a-t-il fait que de l'emporter et le jeter sur quelques montagnes ou dans quelques ravins ?» Ils répondirent, « Non, ne les envoyez pas. » Mais ils insistèrent tant et plus, si bien qu'il leur dit, « Mais envoyez-les. » Il envoya donc les 50 hommes qui cherchèrent pendant 3 jours en vain. Ils revinrent auprès d'Élisée, qui était resté à Jéricho, et il leur dit, « Je l'avais bien dit, pas y aller. » Bien, voyons donc ici comment la vie d'Élie s'achève, et c'est très riche d'enseignements. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses à dire. Vous y discernez quoi?
Déjà, le fait qu'il passe voir tous les disciples avec Élisée, que tous les disciples sont informés, et qu'ils sachent que ben, non seulement Élie va être enlevé par l'Éternel, mais qu'également ben, il y aura une délégation du savoir qui va se de l'esprit.
Donc la délégation de savoir, ils n'étaient pas au courant. Mais par contre, ils étaient tous au courant qu'Élie allait être enlevé. Que le Seigneur allait le reprendre. C'est quand même une chose qui est remarquable. On se rend compte aussi d'une chose, c'est qu'à la fin, quand ils se rendent compte que l'esprit d'Élie repose sur Élisée, ils ont une attitude qui est pour le moins curieuse. Les disciples des prophètes de Jéricho, qui le virent d'en face, s'exclamaient, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils reconnaissent une véritable autorité en Élisée. C'est-à-dire que Élie était vraiment reconnu comme l'autorité en Israël. Parce que s'il se prosterne devant lui, on ne se prosterne pas, on se prosterne devant un maître, on se prosterne devant un roi. Et là, le fait qu'il se prosterne devant Élisée, parce qu'il reconnaisse en lui le successeur d'Élie, celui sur qui repose l'esprit d'Élie, ils reconnaissent la transmission d'autorité. Je vous rappelle que Élie s'était imposé sur le roi d'Israël, et ce faisant, il est devenu l'autorité sur Israël. Quand on domine un homme, et qu'on est son maître, cet homme-là devient votre sujet, fût-il le roi d'Israël. Donc, par conséquent, pour les prophètes, Élie était devenu le vrai roi d'Israël, était vraiment devenu le loin de l'Éternel, le Machia d'Israël. En Israël, un Machia, c'est un prêtre, un prophète ou un roi, un guide, un chef. Et là, on peut vraiment dire qu'Élie, en s'imposant sur Ahazia, en résistant au dieu Baal, il est devenu le Machia d'Israël, le Messie. Et que donc, on le reconnaissait comme tel, comme ce chef qui a autorité sur le pays. Quand Élisée revient avec cet esprit sur lui, Il revient en tant que Mashiach d'Israël, comme chef en Israël, comme autorité. Et donc, les prophètes, ils se prosternent devant lui. Il dit, voilà notre nouveau chef. Maintenant, il y a ce Mashiach d'Israël, il a un cheminement qui est tout à fait particulier. Il faut se rappeler que quand Moïse a donné les rênes de la conduite du pays à Josué, quand il est rentré dans le pays promis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé le Jourdain, c'est-à-dire, ça s'est passé de la même manière que là. Il a frappé les eaux, et les eaux se sont séparées, et le peuple a pu traverser à sec. Et après ça, l'étape suivante, c'était Jéricho, où l'Éternel a combattu pour le peuple. On se rappelle de l'épisode des trompettes de Jéricho. Et donc là, le Mashiach d'Israël, le chef d'Israël, a quitté le pays comme le peuple y est rentré. C'est un petit peu comme si le Seigneur lui-même quittait le pays. Symboliquement, il va suivre le cheminement inverse. Il dit, moi, quand je suis rentré à la tête de mon peuple, j'ai suivi ce chemin-là. Maintenant, je sors de ce pays comme j'y suis rentré. C'est comme si l'Éternel s'identifiait à Élie. C'est comme si l'Éternel marchait avec Élie. Et puis, que, symboliquement, Élie suit ces traces-là. Ce qui suit, finalement, c'est la voie du Seigneur. C'est le chemin du Seigneur. Il y a une superposition dans les rôles. C'est le prophète, à ce moment-là, qui est l'autorité en Israël, qui est le Mashiach en Israël, est un peu comme Christ. C'est le sauveur du peuple, c'est la lumière du peuple, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Et là, on peut dire, c'est vraiment presque un Dieu fait homme, dans le sens où, à un moment donné, il monte sur la montagne, il s'identifie à l'Éternel, et il agit comme le Dieu Baal. Il dit à mon ordre, sur mon ordre, ici sur cette montagne où vous venez adorer vos idoles, mais moi j'agirai au nom du Seigneur, je serai comme le Seigneur. Et il frappe donc les soldats qui montent vers lui, et maintenant il continue. Il continue dans cette même démarche. Le Seigneur le conduit à avoir une attitude qui est comme si c'était lui-même en personne qui maintenant est représenté dans la personne d'Élie, et puis que comme il est rentré dans le pays, et bien maintenant il va en sortir. Et donc il part de Bethel. Bethel, c'est l'endroit où en Israël ils avaient mis le veau d'or, vous vous rappelez. Donc à chaque extrémité du pays, on avait mis en Israël un veau d'or, et donc il part de là. Donc il a pris autorité sur le dieu Baal, et donc il part de Bethel, pour bien dire, Elohim, c'est moi. Quand je pars d'ici, parce qu'il n'y a qu'un dieu en Israël, je vais à Jéricho, cette première ville dont j'ai renversé les murailles, et maintenant je sors du pays, comme j'y suis rentré, les eaux du Jourdain s'arrêtent, et puis il va dans le désert, et puis le Seigneur l'enlève. Bon, ça nécessite encore quelques explications pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que là, il va falloir lire un peu entre les lignes, et surtout se replonger dans le contexte du moment, le contexte du pays. Et là, on va se rendre compte que vraiment, Élie, c'est le Mashiach d'Israël. Donc, on va reprendre le texte de Chouraki à la fin, pour reprendre de nouveau les termes en hébreu. Je vais juste lire le verset 1 du chapitre 2 qui dit ceci. Et c'est quand Yahvé Adonai fait monter aux cieux Élie dans la tempête. Élie va avec Élisée qui part de Gilgal. C'est-à-dire au moment où il part, on nous dit que Yahvé Adonai va l'enlever vers les cieux dans la tempête. Je rappelle que le dieu de la tempête, dieu de l'orage, dieu des éclairs, c'est Baal. Encore une fois, dans un geste symbolique, l'Éternel va une fois de plus montrer que le maître, parce que Baal, ça veut dire le maître, et que Baal-Zébub, Melkart, Le veau d'or, finalement, c'est le fils du grand duel d'Asherah, la vache. Et s'il y a un fils qui est reconnu en Israël comme étant le fils de Dieu, s'il y a un fils parmi les hommes qui est reconnu par l'Éternel comme étant son représentant, comme venant de lui, eh ben c'est Élie. Élie, à ce moment-là, devient le machia. Élie devient le conducteur du peuple. Élie devient le fils de Dieu, dans le sens où Dieu l'envoie. Il est issu de lui. Son esprit repose sur lui. Et il va l'emmener dans un vent de tempête. Il va l'emmener dans le ciel. Encore, nous avons une superposition de symboles où le Dieu, le fils des dieux, qui est le fils de la tempête, qui est le Baal des Phéniciens, dans ses symboles, dans ses gestes, eh bien, Élie va les reproduire. On a vu le cheminement. Bethel, Jéricho, le Jourdain, et il arrive dans le désert. Une fois arrivé dans le désert, la séparation se fait. La séparation se fait d'une manière tout à fait particulière, c'est pas n'importe quoi. C'est pas Élie qui s'élève du sol, qui monte doucement vers le ciel et qui est caché par une nuée, ou que sais-je, une vierge née mille choses. Non, 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 ça se passe d'une manière tout à fait particulière. Pendant qu'il continuait de marcher, tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu va entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon. C'est pas tourbillon, mais c'est une tempête. À cette vue, Élisée s'écria, « mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Ça, on peut aussi traduire, « toi qui es comme le cavalier d'Israël et ses équipages. » C'est-à-dire toute la cavalerie d'Israël. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Ça, on l'a aussi déjà vu, tous ensemble. Je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Un des attributs de Baal, dans la rue, il pouvait être représenté sous la forme d'un bétil, une pierre dressée. Il pouvait être représenté comme le dieu de l'orage, mais on le représentait aussi, et on l'adorait, sous la forme du soleil. Et un des symboles du soleil parmi les peuples sémitiques, eh bien, c'était le cheval. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi? Parce que le cheval, c'était un des animaux qui allait le plus vite, comme la lumière, eh bien, il se répandait très rapidement. Et donc, le cheval était considéré comme un symbole solaire. Je vous rappelle ça. On avait vu ça. On avait déjà vu. Oui, entre autres. On avait déjà vu ça dans les études précédentes. Je vous rappelle juste, je vous rafraîchis juste la mémoire. Les chevaux et les chars du soleil, dont il est parlé dans la Bible, appartenaient particulièrement à la Phénicie. Donc, au dieu Baal, Zéboub, hein, qui était un dieu phénicien, ou Melkarth, qui était ces dieux de Tyr, de Sidon, qui étaient toujours les fils des grands dieux El et Asherah. On rappelait ces trois dieux, hein. Il y avait toujours le père, la mère et l'enfant. Et ça, c'était chez les Phéniciens. Les quatre chevaux du soleil composaient la tétrade mystique à laquelle les Perses offraient des sacrifices et des honneurs particuliers. On sait que dans tout le paganisme antique, les chevaux, symboles de la course rapide, étaient consacrés au soleil. Le mot Ab-Zumim, c'est-à-dire adorateur des chevaux, se rencontre souvent dans les inscriptions phéniciennes. Le soleil, comme objet d'un culte spécial, n'était pas représenté figurativement, mais symboliquement par des chevaux et un char. Il y avait un de ces chars à Hiélopolis, en Phénicie, à Magoub, sur l'Euphrate et à Emesa. À ce culte se rattachait intimement celui de Melkarth, le grand dieu de Tyr, qui était souvent représenté comme le conducteur du char solaire, attelé de quatre chevaux. Il a pour symbole une colonne, surmontée d'une flamme. On a déjà vu ça, vous vous rappelez, crié pas d'enthousiasme. Mais je sais que je vous ai déjà parlé de ces choses. Je sais bien que quand je parle des dieux antiques, en général, ça stimule le bâillement et le désintérêt. Mais si vous voulez vraiment comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, si vous voulez comprendre la vie d'Élie, si vous voulez comprendre son cheminement et les symboles qu'il représente, il faut vous imprégner de cette culture-là, parce que sinon vous vous passez à côté de tout. Dans la mythologie phénicienne, le conducteur du char du soleil est tué par le dieu des ténèbres et reste privé de vie pendant toute la durée de l'hiver. Puis, il se réveille vers l'équinoxe du printemps pour renouveler sa carrière. Les colonnes, symbole du soleil, étaient surtout vénérées dans le temple de Tyr. Elles portaient le nom de Kamam Nim. Kama, soleil chaud. Je vous rappelle que le roi Baal, le dieu Baal, en tant que fils, le beau, c'est le dieu qui meurt et qui ressuscite. Symbole de fertilité, de la végétation qui se renouvelle. C'est pour ça qu'on l'adorait, parce que dans ce temps-là, le peuple, c'était extrêmement important pour lui que les récoltes soient abondantes, que la pluie tombe, parce qu'il vivait de ça. Si il y avait de la sécheresse, ou bien si le blé pourrissait sur pied, c'était un désastre. Donc le dieu le plus important, c'est le dieu de la végétation, du renouvellement des saisons et de la pluie. D'où cet intérêt de systématiquement revenir vers Baal, qui était ce dieu qui apportait la fertilité au sol, qui apportait la prospérité dans le pays. Parce que si les récoltes étaient abondantes, ça signifiait que derrière, on aurait une année heureuse, que les gens se multiplieraient, et puis qu'on ne connaîtrait pas de problème de disette et un tas d'autres choses. Tout ça, on l'a déjà vu. Sous certains rois de Juda, plus tard, particulièrement Manassé et Amon, le culte du soleil fut établi à Jérusalem même et aux environs. Cette forme est à Juda. Israël, ils ont tous été déportés à cause de ça, parce qu'ils s'étaient justement tournés vers le dieu Baal, culte solaire et tout ce qui est accroché à tout ça, et parce qu'ils persistaient à se détourner du Seigneur et à ne pas suivre les voies de l'Éternel, le pays a été détruit et tous les gens ont été déportés. Ça, c'est plus tard. Après, malgré le fait qu'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus du Nord, a été déporté, et puis qu'il n'existait plus, Juda a fait exactement les mêmes erreurs. Ce qui restait encore du peuple de l'Éternel qui était resté dans le pays, a commis les mêmes péchés, a fait les mêmes fautes. Et donc, ils sont carrément établis purement et simplement à Jérusalem, même là où il y avait le temple, un culte à Baal, un culte au dieu du soleil. On offrait des parfums à Baal et au soleil. La même chose, Dieu Baal, un de ses symboles, c'était le soleil. À l'entrée du temple, des chevaux étaient dédiés au soleil et il y avait des chars du soleil. Josias chassa les prêtres qui pratiquaient ce culte, fit disparaître les chevaux et les brûla. Ça, on peut lire dans 2 Rois 23:11. Josias fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Netan-Mélek qui demeurait dans le faubourg. Il y brûla au feu les chars du soleil. On avait mis ça à l'entrée de la maison de l'Éternel, c'est ces objets que les rois de Juda avaient consacrés. Donc c'était déjà quelque chose qui s'était mis en place de génération en génération. Donc, un des symboles du dieu Baal, c'était le cheval, le char, parce que ça représentait la course du soleil. Et donc là, si on met ça en parallèle avec ce qui est en train de se passer là, avec l'enlèvement d'Élie, ça ne se fait pas n'importe comment. Encore une fois, le Mashiach d'Israël est identifié à Baal, où il se superpose à lui, et les choses se passent exactement comme si Élie était à ce moment-là le dieu d'Israël. Il dit, vous voulez un dieu étranger? Il n'y a qu'un dieu en Israël. C'est Yahvé Adonai. et celui qui le représente, son Machia. Nous avons ici une préfiguration de Yeshua. Nous avons ici une image forte de ce que représentera Jésus quand il viendra sur terre. À ce moment-là, comme Moïse a été en son temps, eh bien, Élie, c'est le Machia d'Israël, le chef, le maître, l'autorité. Et l'Éternel l'élève à un rang où il prend la place d'un Dieu. Comme lui, il va partir dans le ciel, enlevé par un char de feu. Il est identifié à un cavalier qui part vers le ciel. C'est la même image que le Dieu Baal. Élie, à ce moment-là, se superpose à la symbolique du Dieu Baal. Il a agi comme s'il était Baal quand il était en haut de la montagne. Il a fait descendre le feu du ciel. Et il est enlevé au ciel comme s'il était le Dieu Baal. Donc là, vraiment, l'Éternel montre toute cette puissance, toute son autorité. Et aussi, par cette symbolique, il enseigne le peuple. Il dit, vous adorez des idoles, mais moi je vous envoie des gens qui sont vivants, remplis de mon esprit. Ce sont les chefs que vous devez suivre. Il n'y a pas d'autorité spirituelle autre dans le pays que vous devez respecter que celle sur laquelle repose l'esprit de l'Éternel. Donc là, il dit, vous adorez des idoles, des pierres creuses, où il ne se passe rien, strictement rien. Vous adorez les symboles bêtes et idiots, un simple cheval taillé devant un temple. Moi, je vous envoie Élie. Moi, je vous envoie mon prophète. Je vous envoie le Machia d'Israël. Revêtu de ma puissance, revêtu de mon autorité, revêtu de mon esprit. Ah ben non, vous ne l'écoutez pas, vous ne le suivez pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'il vous réclame? Est-ce qu'il vient chez vous pour vous martyriser, pour vous voler? Ben rien. Il est là avec son manteau de poil de chameau. Il est toujours perdu dans le désert. Il réclame rien à personne. Tout ce qu'il veut, c'est simplement que vous soyez heureux. Tout ce qu'il veut, c'est que vous agissiez comme des gens sensés. Et là, le Machia d'Israël, c'est le Dieu vivant de ce temps-là. C'est vraiment l'image de ce personnage revêtu de la totalité, de la pleine grâce, de la pleine puissance du Seigneur, avec l'Esprit de Dieu qui vraiment reflète au travers de lui, au travers de ses paroles, au travers de ses gestes, au travers de ses actes, au travers de son autorité. Même les rois devaient se soumettre par rapport à lui. Élie, c'est lui qui pouvait retenir les armées étrangères, c'est lui qui avait autorité sur les dieux étrangers, c'est lui qui avait autorité sur les rois étrangers, c'est lui qui avait autorité sur le roi d'Israël. Il agissait vraiment comme le Machia. C'était lui l'autorité suprême. Les éléments lui obéissaient. Sur sa voix, sur sa parole, le feu descendait du ciel. Sur sa parole, la pluie s'arrêtait de tomber. Sur sa parole, les condamnations ou les bénédictions retombaient sur le roi. Donc c'était vraiment l'image de ce qui allait venir plus tard. L'image de ce Yeshua qui un jour descendrait sur terre et s'établirait comme roi éternel sur Israël. Mais Élie, c'était une préfiguration de ça. C'était la préparation symbolique, c'était la préparation du cœur du peuple à recevoir son Messie, le vrai, c'est-à-dire l'éternel, qui viendrait habiter au milieu des hommes, qui viendrait vivre au milieu des hommes. C'est par son ministère, par ses actes, par tout ce qu'il a fait dans sa vie, Élie était une image des choses à venir. C'était la préparation psychologique, la préparation des cœurs d'un grand prophète, d'un grand roi, d'un grand prêtre qui un jour régnerait à jamais dans ce pays. Et Élie, c'est par son esprit, par tout ce qu'il a fait, un type de Christ, un type de Machia qui un jour arriverait plus tard. Et là, le Seigneur l'a vraiment établi, l'a élevé au plus haut de tous les rangs. Il l'a mis au-dessus des rois par l'autorité, mais en fait, il l'a mis au-dessus des dieux en superposant l'image des dieux étrangers à sa personne. L'orage, le cheval, symbole solaire, toutes ces choses-là, tout ça lui a été attribué. Dans un dernier geste symbolique, l'éternel Adonai, il a élevé Élie au rang d'un dieu. Et donc là, ça doit nous faire réfléchir sur ce que le Seigneur il attend de nous, sur ce que le Seigneur veut de son peuple. Ce qu'il veut, c'est que nous nous identifions à sa personne, que nous rentrions dans notre rôle, que nous soyons, de par nos personnes, le reflet de Christ, parce que ce n'est pas à des hommes ordinaires que le Seigneur peut faire don de son esprit, mais ce sont à des personnes qui s'élèvent, ce sont à des personnes qui marchent sur les autorités qui dominent sur la terre. Nous devons être comme Élie. Il n'y a absolument aucune raison que Élie soit un être d'exception. Élie, ça doit être un prototype des choses à venir. Élie, ça doit être l'image du Machia. Mais qu'est-ce qui est dit dans les évangiles? Que nous devons être le reflet de Christ. Nous aussi, nous devons aspirer à ces choses-là. Ce n'est pas inaccessible. Ces choses-là sont possibles à partir du moment où nous nous investissons de notre rôle, c'est-à-dire celui de fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et par conséquent, aux yeux des hommes, nous pouvons être comme des dieux. Quand le Seigneur dit « Vous saisirez des serpents, vous imposerez les mains aux malades, vous ferez des miracles et toutes ces choses-là », les hommes ordinaires ne peuvent pas faire ces choses-là. Mais le fils de Dieu, lui, peut les faire. Et Jésus a dit à ses disciples, vous ferez des choses même plus grandes que moi encore. Nous ne sommes pas là dans le domaine de la supposition, nous ne sommes pas là dans le domaine du rêve, nous sommes là dans le domaine du concret, nous sommes ici dans le domaine des choses réelles. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous contenter des choses toutes simples, et puis vivre notre petite vie courante, d'homme ordinaire, assis dans la société, à jouir de ses bienfaits, et puis de couler comme ça une vie, hop là, comme tout le monde. Pas du tout. Le Seigneur ne nous appelle pas ça. Nous devons être comme ce personnage-là, qui lui-même est une image de Christ, ce même Christ qui nous appelle, nous, à être son reflet. Comme Élie a été en son temps l'image du Dieu qui marchait en Israël, nous, aujourd'hui, nous devons être l'image du Dieu qui marchons dans notre temps. Et ce qui a été fait de ce temps-là, ça nous appartient, c'est notre promesse, c'est à nous de la saisir, c'est à nous de la mettre en pratique et d'avancer sur ce chemin, parce que c'est le chemin que veut le Seigneur. Il y a aujourd'hui beaucoup de dieux qui s'imposent dans notre pays. Ce n'est naturellement plus le Baal-Zébub ou bien Baal-Melkart du temps des Phéniciens. Nous en avons beaucoup d'autres maintenant qui viennent, nous avons Mammon, avec tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui monétaires, le problème de la dette et toutes ces choses-là. Nous devons nous opposer à ça, nous devons dominer sur ces choses-là, nous devons prendre autorité sur ça. Ce n'est pas à ce monde qui nous entoure, aux forces spirituelles qui dominent ce monde et qui aujourd'hui le ballottent dans tous les sens, de nous laisser dominer par ces autorités-là, par ces dieux étrangers. Nous devons prendre autorité sur ça, le nom de Christ, au nom de Jésus, nous devons être les machiens de notre temps, les oins du temps de la fin, pour faire opposition à ces autorités. Et comme l'a fait Élie de son temps, montons sur la montagne, crions vers l'Éternel et résistons aux forces du mal qui sont en face à nous. Ça veut dire la pornographie, ça veut dire l'argent, les facilités du monde, toutes ces séductions qu'on voit autour de nous. Aujourd'hui, on parle d'idoles dans les stades, on parle d'idoles en tant que chanteurs, on parle de séries cultes, etc. Tout ça, ça doit sonner à vos oreilles comme étant la voix de l'adversaire qui essaye de séduire le peuple pour l'amener à l'adorer, sous différentes formes, exactement comme il le faisait en ce temps-là. Il y avait le grand duel, il y avait Asherah, il y avait Baal. Mais il y avait une multitude d'autres encore, des petits dieux. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a une multitude de dieux qui cherchent à s'imposer dans nos vies, et nous devons résister à ça exactement comme Élie l'a fait. Devons-nous, avec autorité, avec force, nous dresser face à l'adversité et dire « Maintenant, ça s'arrête. Maintenant, il n'y a qu'un dieu, il n'y a qu'un peuple, et c'est ce dieu que nous représentons, et nous sommes son peuple. » Et nous prenons autorité sur l'adversité. Nous prenons autorité sur l'adversité. On a la possibilité de le faire. Et je dirais même, seulement, on a, mais Dieu veut qu'on saisisse cette autorité et qu'on la mette en application. C'est son désir. C'est notre destin. C'est ce que le Seigneur, il attend de nous. Quand le Seigneur dit, vous saisirez des serpents, vous guérirez des malades, toutes ces choses-là, ben, c'est ce qu'il attend de nous, c'est notre mission, c'est notre ordre de mission. Il dit, voilà, je vous donne la feuille de route, c'est ça que vous devez faire, c'est ça que j'attends de vous. Je vous donne l'autorité pour le faire et vous serez mes représentants. À partir du moment où on se détourne de ça, ben, devant des gens ordinaires, devant des gens comme tout le monde, et l'esprit d'Élie, l'esprit du Machia, eh ben, ne repose plus sur nous. Nous ne sommes plus des oins du temps de la fin. Nous ne sommes plus les oins de Dieu. Chrétiens, hein, pour mériter ce nom-là,